Sylvain Piron, maître de conférence en histoire, et qui nous parle de la question du plagiat, mais plus largement aussi des influences, finalement, de cette question vaste.
Voilà. Oui, donc c'est un discours qui concerne à la fois les étudiants de master et de doctorat, et qui est un point crucial sur l'écriture, puisqu'on a parlé de cette question d'écrire. Vous êtes venu ici, en master ou en doctorat, pour réaliser un travail original, un travail personnel de recherche. C'est la raison de votre présence ici. Cela veut dire que vous vous engagez à écrire avec vos propres mots quelque chose, à construire un discours, à élaborer un discours personnel avec vos propres mots. Ce qui, effectivement, on l'a dit, est difficile. Ce qui est en particulier difficile pour les étudiants qui sont nombreux ici, qui ne sont pas de langue maternelle française. Pour cette raison, l'école propose un appui, une formation au français, à l'écriture du français universitaire, qui est une langue aussi particulière. Mais face à la difficulté, vous pouvez, à un certain moment, avoir la tentation d'utiliser des travaux déjà réalisés par d'autres, de reprendre des bouts de texte qui vous paraissent bien, qui collent, qui répondent aux problèmes, et la tentation de les reproduire et de vous les attribuer, c'est exactement ceci qui constitue le plagiat. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais vous dire en quelques mots, en quatre types de raisons, pourquoi c'est une erreur de céder à cette tentation, qui est très facile, puisque la profusion de documents disponibles maintenant par un clic est telle que on peut trouver les réponses à toutes les questions en ligne. Alors pourquoi ne pas le faire? La première raison, c'est une raison pratique. C'est le plagiat ne paie pas. Ça n'a aucun intérêt. Ça se voit tout de suite. C'est même pas la peine d'y penser. Si vous commettez un plagiat à l'école, ça se verra instantanément. Alors pour plusieurs raisons. L'une, ça a été dit par Alban tout à l'heure, on est dans une démarche pédagogique de face à face. Les enseignants choisissent leurs élèves. Ils les connaissent. Mieux en thèse qu'en master, certainement. Mais même en master, on vous connaît individuellement. On vous voit. On vous entend en séminaire. Si on ne vous entend pas assez en séminaire, on vous pose des questions après le séminaire, on vous reçoit, on discute. Ce qui veut dire que l'enseignant vous connaît, il connaît votre niveau de langue également, vos références, et il pourra instantanément déceler si le texte que vous lui remettez est vraiment de vous. Et s'il a un doute, qu'est-ce qu'il fera? La première chose, c'est exactement ce que vous avez fait pour chercher un document. Par Google, on prend une expression à ces caractéristiques d'un texte, on la met dans Google et on trouve, on peut trouver, si c'est une source plagiée, on retrouvera la source instantanément. Et si on a des doutes, on peut passer à l'étape suivante qui est d'utiliser un logiciel anti-plagiat dont l'école va se doter prochainement. Ça fait 5 ans que je demande, donc ça finira par arriver. C'est pas un remède en soi, c'est un outil supplémentaire. La vigilance essentielle, c'est l'enseignant qui l'a par rapport à ses étudiants, mais le logiciel permet effectivement d'effectuer un contrôle dans les cas de doute, et ça peut être très utile pour détecter des plagiats qu'on n'aurait pas vu autrement. Donc, c'est pas la peine d'y penser, ça se verra instantanément. Mais le plus grave dans ce motif pratique, c'est en succombant à la tentation du plagiat, vous manquez de respect à vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes lésé par cette opération. Vous ne faites pas l'effort de construire un discours original. C'est ça qui est le plus grave, finalement, dans ce plagiat. Alors, deuxième point, il y a des raisons scientifiques. C'est sans doute le plus important. Pour cela, en fait, la meilleure formule, je l'ai trouvée dans un mémoire de master consacré au plagiat de 2009 de Charles Coustille, qui citait notamment une très belle phrase de Michel Foucault, c'est dans « Dit et écrit », tome 2, page 1232, « Un travail doit montrer comment il est fait. C'est à cette condition qu'il peut non seulement ne pas être trompeur, mais être positivement utile. » Et ça suffit pour comprendre pourquoi il ne faut pas plagier. Il faut montrer de quoi votre travail est fait. C'est-à-dire, vous devez montrer les sources que vous avez mobilisées, vous devez faire comprendre les références que vous avez en tête, vous devez comprendre comment vous avez mené votre enquête sur le terrain, dans les documents, dans les archives, ou dans la pensée pour la philosophie, mais parfois aussi avec des expériences. Vous devez montrer de quoi est fait votre travail pour qu'on puisse en tirer quelque chose, pour que votre lecteur puisse en tirer quelque chose. La scientificité, je pense, en une règle générale ce qui définit un savoir comme étant scientifique, c'est qu'il est reproductible, c'est qu'on peut reproduire une expérience et aboutir au même résultat. En sciences humaines et sociales, la reproductibilité, elle est garantie par la citation. C'est en citant très précisément les documents, en montrant les documents, en publiant des documents d'archives, des carnets de terrain, des observations, en filmant éventuellement vos terrains. Enfin, il y a plein de façons de montrer vos matériaux de travail. Et donc, si c'est en les montrant et en rendant possible le cheminement que vous avez suivi, qu'on pourra contrôler si le raisonnement fonctionne. Donc la reproductibilité de votre travail, elle est garantie par la citation. Donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est un geste, enfin, François l'a déjà dit, c'est un des gestes fondamentaux de la science, de la démarche scientifique, et c'est l'élément par lequel justement vous irez construire la fameuse distance réflexive par rapport à votre au savoir. Vous la construisez pas en citant, en reproduisant simplement des textes, mais en les situant, en les mettant entre guillemets, en donnant la référence très précise et en les commentant. C'est pas la peine de tartiner des pages. Une citation simple peut appeler des commentaires, peut suffire à résoudre un problème, mais vous devez la montrer et la citer précisément. Alors, après cette raison scientifique, il y a un autre type de raison qui est d'ordre juridique, tout bêtement. Le plagiat est puni à différents titres. Comme délit, alors là encore, il y a toute une réflexion juridique en cours. Pour l'instant, le plagiat est puni pénalement au titre de la contrefaçon, ce qui suppose un intérêt commercial. Donc c'est assez difficile de faire rentrer le plagiat universitaire dans ce cadre-là, mais ça arrive, ça arrive. Même si ça fonctionne plus pour les plagiats commis par des journalistes fameux qui n'ont pas le temps de faire le travail et qui confient à des nègres le soin de rédiger des textes qui, généralement, compilent ce qui est disponible. En revanche, pour vous, étudiants, il y a des sanctions disciplinaires qui sont très sérieuses, qui sont parfois mises en œuvre, alors qui sont de différents types. Si c'est un plagiat commis dans le cours d'un master, dans un travail qu'on vous demande pour valider un séminaire, vous aurez à rendre des travaux écrits en cours de master. Si vous commettez un plagiat dans ce cadre-là, vous aurez un zéro, tout simplement. Enfin, après, chaque fois, ça dépendra des pratiques de chaque mention, mais en gros, vous aurez zéro, vous aurez à refaire le travail, vous serez passablement enguirlandé par votre enseignant également, et vous ne le referez plus. Si vous commettez une chose qui est l'autoplagiat, c'est pas simplement de prendre un texte de quelqu'un d'autre, mais le même texte et de le redonner également, là aussi, vous aurez des problèmes, on vous dira que c'est pas sérieux de faire cela. Mais c'est que le zéro. Par contre, quand on passe au niveau du mémoire de master, que vous irez rendre à la fin, si votre directeur n'a pas détecté qu'il y avait un problème, vous aurez un jury qui va regarder, donc une discussion avec deux personnes, et ensuite le mémoire passera en commission, il y a des commissions pédagogiques dans chaque mention qui examineront, et ça se verra forcément à ce moment-là, et là, le mémoire sera rejeté, et vous pourrez être puni encore plus gravement, éventuellement, si on considère que la faute est vraiment très lourde, d'une interdiction de réinscription. Alors cette peine-là, elle vaut peut-être surtout pour la thèse. Donc en thèse, même chose. Il y a différents niveaux de stade de contrôle du plagiat. Le jury de thèse, normalement, est là pour ça. Si le jury ne remplit pas sa mission, il peut y avoir des jurys complaisants. Ça, c'est vu. Ça se voit dans certaines institutions, pas à l'école. Un jury complaisant peut laisser passer une thèse. Mais là, il y a la phase suivante qui est le CNU, le Conseil national des universités, qui a en commission juge si les travaux peuvent être qualifiés et vous rendre apte à être candidat à des postes dans l'enseignement supérieur public français. Et c'est à ce stade-là également qu'on peut voir un plagiat, on peut le dénoncer, on peut non seulement ne pas qualifier la thèse, mais engager des procédures en vue de l'annulation de la thèse. Et là, vous perdez votre titre de docteur, vous perdez tout. Donc à différents niveaux, vous aurez des punitions. Donc, et ça, je vous dis, ça se verra. Et si ça se voit après coup, vous rendrez votre titre 10 ans après. Ça arrive aussi. Et le pire, c'est que quand on arrive à ce genre de punition, malheureusement, c'est une peine qui est ineffaçable. Ça vous garderez toujours cette tâche d'avoir commis un plagiat. Donc ne le faites pas. Ça n'a aucun intérêt. Et le dernier point, c'est une raison morale. Je crois que c'est peut-être encore plus important. La raison morale, c'est que citer, c'est pas simplement donc donner une référence froide. C'est aussi un acte de gratitude. C'est-à-dire c'est la façon de remercier ceux qui sont venus avant vous. Le jour où vous découvrirez qu'un savant allemand du 19e a répondu à votre problème, eh ben vous le remercierez de l'avoir fait en le citant. Vous remerciez, mais donc citer pour remercier, c'est une chose que vous faites avec tout ce qui vous a apporté quelque chose, avec les références majeures que vous avez rencontrées dans votre parcours, mais également avec toutes les informations que vous recevez en cours de route. Vous remerciez vos informateurs sur le terrain, vous remerciez les gens qui vous ont donné des pistes, hein, pas simplement les travaux écrits, mais les gens qui vous donnent des conseils, ce que vous entendez en séminaire, une idée géniale que vous entendez en séminaire de la bouche de l'enseignant ou d'un condisciple, vous pouvez la citer, vous-même vous devez la citer, et vous citez également, plus important, j'en terminerai par là, ce que vous trouvez en ligne, au lieu de reproduire bêtement des fiches Wikipédia, citez toutes les informations que vous trouvez pendant votre parcours de recherche. Et ces informations, effectivement, quand elles sont en ligne, parfois elles sont mal identifiées, vous ne savez pas comment les citer, alors réfléchissez un petit peu, essayez de trouver les bonnes façons de citer. Maintenant, dans les publications scientifiques en ligne, vous trouverez toujours en bas de la page une petite mention pour citer cet article, donc vous aurez les éléments pour le citer. En général, un document en ligne, on le cite avec l'URL, qui est le chemin d'identification, mais on a aussi maintenant le DOI, qui est une numérotation qui identifie les documents électroniques. Mais aussi, il faut toujours penser à donner la date de consultation, puisqu'on est face à des objets qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer, donc quand on cite un document vu en ligne, on note la date de consultation, donc notez, effectivement, datez vos recherches, comme le disait François, enfin, c'est la même chose pour des bases de données. Ça, c'est très important. Vous utiliserez de plus en plus des bases de données pour vos travaux. Pensez à citer les bases de données que vous utilisez. C'est pas parce qu'elles sont en ligne, je finis, qu'il ne faut pas les citer. Ce sont des outils à mentionner pour qu'on puisse justement reproduire votre trajet de recherche. Donc, citez les bases de données et citez la version que vous utilisez et donc le jour, la date d'utilisation de ces bases de données. Donc, citez absolument tout pour montrer de quoi votre recherche est faite et pour qu'on puisse en faire quelque chose. Et c'est de cette façon-là que vous-même, vous arriverez à vous construire comme personnalité intellectuelle. Et c'est comme ça que vous ferez un bon travail pour vous et pour nous, à la fois. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvain. Pour moi, en fait, cet exposé, il est aussi important que qu'est-ce qu'un master, qu'est-ce qu'une thèse. C'est-à-dire que c'est tout autant les bases même de la recherche, en fait. Apprendre à citer, apprendre à lire, apprendre à critiquer, et donc à ne pas s'inscrire un peu en faussaire comme ça dans le travail. Et je crois que ça a été bien expliqué. Nous allons désormais vous donner des informations plus pratiques avec des personnes qui sont beaucoup plus au fait que nous, les anciens chercheurs, des modalités pratiques de la scolarité à l'EHESS. Et je vous inviterai par contre à réserver, mais si vous avez des questions sur chacun des thèmes, à les réserver pour un peu plus tard. Mais pensez à ce moment-là à les noter, puisque c'est aujourd'hui qu'on peut y répondre en priorité. Alors, en premier lieu, Marie Coutant, qui s'occupe du service de l'école pour l'accueil des étudiants handicapés.
Bonjour. Donc, comme Eric vient de le dire, nous sommes le côté pratique de l'EHESS et pas des enseignants-chercheurs, donc beaucoup moins bavards. Donc, je voulais vous présenter le bureau d'accompagnement des étudiants handicapés qui existe depuis presque 10 ans et qui a donc pour fonction d'accompagner les étudiants concernés dans leurs études et dans la mise en place des mesures qui favorisent l'égalité des chances et puis la participation et l'accès aux enseignements, des formations de master, donc du diplôme de l'école, du master, du doctorat et jusqu'à l'HDR. Alors bien entendu, il n'est pas question du tout de venir chercher les étudiants qui seraient concernés. C'est aux étudiants eux-mêmes de venir se présenter individuellement s'ils souhaitent ou s'ils se sentent concernés par la question du handicap. Donc ma mission dans ce sens aujourd'hui, c'est de rendre ce service que je représente le plus ouvert, le plus visible possible pour que chaque personne qui se sent concernée puisse s'en saisir ou l'indiquer à un de ses condisciples. Si vous vous sentez concerné, il y a deux portes d'entrée principales, mais qui ne sont pas les seules. La première, c'est de venir me voir. La deuxième, c'est s'adresser au service interuniversitaire de médecine préventive. Donc, je pense qu'elles vont intervenir après nous.
Juste après, oui.
Ça peut être aussi les secrétaires de master, vos enseignants-chercheurs tuteurs, qui peuvent être aussi des relais. C'est en tout cas des gens qui rentrent dans la construction de la mise en place et d'adaptation pour les étudiants handicapés. Donc la première prise de contact, elle se fait généralement par entretien C'est la première étape pour l'évaluation des besoins et la mise en place des adaptations. Alors, en raison de l'éclatement géographique de l'école, ces entretiens, ils peuvent avoir lieu soit dans mon bureau, au 190 Avenue de France, au 7e étage, mais ils peuvent avoir lieu dans des endroits plus pratiques pour vous, soit ici, au 105 boulevard Raspail, soit par téléphone, par mail et par visioconférence. Tous les systèmes sont possibles, même si je préfère rencontrer les étudiants de manière générale. Alors, cette prise de contact entre l'étudiant handicapé et le bureau d'accompagnement, il peut avoir lieu là, en début d'année, mais il peut avoir lieu aussi au moment où le besoin s'exprime ou au moment où la situation de handicap s'exprime. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait que le plus tôt possible est toujours le mieux et qu'il est toujours plus confortable pour un étudiant que les adaptations soient mises en place au moment où débutent les séminaires, que plus tard. Et puis, il y a maintenant une systématisation du passage par la médecine préventive étudiante, ce qui peut retarder aussi la mise en place des adaptations. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous avez des collègues qui se sentent concernés, venez me voir le plus tôt possible, de manière à ce que, quand la difficulté s'exprimera, on puisse être prêt à mettre des choses en place. Je pense, par exemple, à des étudiants des étudiants handicapés qui mènent leur vie sans mon aide et mon soutien, mais qui, ponctuellement, à la fin d'une séance de séminaire, n'arrivent pas à valider le séminaire parce qu'ils ont été hospitalisés, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé. Et à ce moment-là, toute la démarche, toute la démarche de mise en place des adaptations et d'évaluation des besoins est un peu longue parce que la réponse doit être rapide. Donc, je vous le disais aussi, c'est la mise en place des adaptations et surtout l'évaluation des besoins, elle ne se fait pas juste en tête-à-tête. L'étudiant y participe, mais y participent aussi vos tuteurs, la médecine préventive, les formations de master, mes collègues de l'ADEV et tous les interlocuteurs qui peuvent fournir des renseignements et fournir une expertise sur les aménagements à mettre en place. Alors, les aménagements, évidemment, ils sont calqués sur les besoins de l'étudiant en fonction de son cursus, en fonction de la spécificité de chaque cursus et en fonction de la déficience dont il est porteur. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être une adaptation mise en place pour le suivi des enseignements. Ça va être, par exemple, la mise en place de preneurs de notes, très classiquement, ou la présence d'interprètes en langue des signes, on en a aujourd'hui avec nous, l'installation de boucles magnétiques pour favoriser le lien direct entre celui qui parle et celui qui entend, ou l'agrandissement de documents, enfin toutes ces choses-là qui sont assez classiques, mais ça peut être aussi des aménagements pour la validation des enseignements. Les examens sont assez peu nombreux, mais il y a surtout des choses mises en place pour l'étalement de la validation. Et puis, ça peut être aussi, ce qui arrive plus souvent chez nous, des accompagnements pédagogiques sous forme de tutorat pour des étudiants qui ont du mal à lire ou à manipuler des documents ou qui ont une difficulté de passer à l'écrit manuel. Je vous en parle aujourd'hui ici à vous tous parce que dans la mise en place de ces adaptations, certains d'entre vous pourront être sollicités pour être tuteurs d'étudiants handicapés. Généralement, ça se passe sous forme de contrat de vacation, petit contrat de vacation, très mal payé. Vous pouvez être amené à aider l'un de vos condisciples. Et ces aides individuelles donc, peuvent aussi s'ajouter à des actions d'accessibilité générale. Donc, aujourd'hui, la mise en place d'un interprète en langue des signes sont des mesures d'accessibilité générale. C'est aussi le cas. On a une salle informatique ici qui est ouverte à tous, mais dans laquelle il y a aussi du matériel comme un zoom texte, une imprimante, des logiciels, notamment à destination des personnes malvoyantes. Et puis aussi, on a régulièrement des travaux d'accessibilité de nos locaux. J'ajoute juste avant de terminer que la mission handicap a un deuxième axe qui est tout aussi importante et qui est portée par ce qu'on appelle le programme handicap et société, qui est un programme de recherche et d'animation scientifique dont la thématique est le handicap et qui organise cette année 5 séminaires sur la question, dont un atelier de doctorants auquel je vous invite tous à participer. Si vous voulez me joindre, si vous voulez retrouver mes coordonnées et aussi toutes les procédures nécessaires aux étudiants handicapés, vous pouvez consulter le site de l'école, le site institutionnel, le portail étudiant de l'école, et puis le site du programme handicapé société, PHS, et puis les sites institutionnels généraux du ministère de l'Enseignement supérieur, HandiU, qui regroupe toutes les missions handicap des universités françaises. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Bonjour. Je viens vous présenter le service de l'école doctorale, des écoles doctorales partenaires et du master. Donc ce service comprend un secrétariat, un bureau des soutenances de thèse HDR et le bureau des missions de jury de thèse. Alors de quoi s'agit-il? Du doctorat et du master. Vous le savez, le doctorat se prépare en 3 ans après un master ou un diplôme équivalent et il correspond à un niveau bac plus 8 années d'études. Donc l'objectif est de garantir aux doctorants une formation de haut niveau et une meilleure reconnaissance de leur diplôme tant au plan académique que dans l'industrie ou les services. L'école doctorale. L'inscription en doctorat s'effectue au sein d'écoles doctorales accréditées par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces écoles doctorales structurent l'offre de formation afin de contribuer à sa visibilité et à son attractivité au plan national, européen et international. Ces écoles doctorales fédèrent un ensemble d'équipes de recherche qui prennent en charge la formation et le devenir des doctorants. À l'EHESS, la plupart des étudiants sont inscrits dans l'ED de l'EHESS ou ED286, qui est très importante puisqu'elle compte environ 1500 inscrits chaque année. Mais certains peuvent s'inscrire à l'EHESS dans d'autres écoles doctorales, qui sont des écoles doctorales avec lesquelles nous sommes co-accrédités. Ce sont nos écoles doctorales partenaires. C'est ainsi le cas pour les étudiants qui sont rattachés, par exemple, à l'école d'économie de Paris, qui sont inscrits à l'EHESS, mais au sein de l'ED465 économie Panthéon-Sorbonne. C'est aussi le cas pour les étudiants qui sont inscrits, prendre un exemple un peu prestigieux en ce moment, au sein de l'ED171 Midi-Pyrénées Sciences Économiques Toulouse, école doctorale à laquelle appartient Jean Tirole, dont on parle beaucoup. Donc ça doit vous dire quelque chose. Et je peux parler aussi de l'école doctorale de 158, cerveau, cognition, comportement, dont nous sommes également partenaires. Il y a en France, sachez-le, environ 300 écoles doctorales. Je vous demande de porter une attention particulière à la charte des thèses qui accompagne votre inscription en doctorat. C'est un contrat moral qui est conclu entre le doctorant, son directeur de thèse, le directeur du laboratoire d'accueil et le directeur de l'école doctorale. Elle définit les droits et les devoirs de chacun et c'est bien entendu une garantie de qualité. Le contrat doctoral existe. On en a une 20aine à l'école. C'est pas très important. On espère faire mieux d'année en année. Donc le contrat doctoral est créé par décret du 12 avril 2009 et il est proposé aux doctorants pour une durée de 3 ans. Il apporte toutes les garanties d'un vrai contrat de travail de droit public et il fixe une rémunération minimale. Il est ouvert à tout doctorant inscrit en première année de thèse depuis moins de 6 mois. Les activités qui sont confiées aux doctorants contractuels peuvent être exclusivement consacrées à la recherche, mais elles peuvent également inclure d'autres missions qui sont très encadrées par les textes réglementaires, comme l'enseignement, l'information scientifique, la valorisation de la recherche et des missions de conseil ou d'expertise. La campagne de recrutement pour obtenir un contrat doctoral est lancée vers le mois de juin. Dans les formations doctorales, car comme vous allez le voir, à l'EHESS, Vous appartenez à une école doctorale, mais vous vous inscrivez au sein d'une formation doctorale. Cette formation doctorale appartient à l'école doctorale. La formation doctorale dans laquelle vous allez vous inscrire est une formation disciplinaire. Vous avez des formations doctorales en histoire, en sociologie, en philosophie, etc. Les contrats doctoraux sont attribués, sachez-le, par le conseil de l'école doctorale, qui est réuni en jury, sur proposition des conseils pédagogiques des formations doctorales, au début du mois de septembre. Par ailleurs, si vous voulez obtenir un contrat doctoral, d'autres organismes lancent des campagnes de recrutement. Les campagnes débutent dès le début de l'année civile. Nous avons plusieurs organismes financeurs, comme la région Île-de-France, l'Institut national du cancer. Vous devez vous tenir informé aussi régulièrement que possible. Pour cela, consultez vos mails, bien sûr, à vos adresses athess.fr. On n'insistera jamais assez sur la nécessité d'activer vos comptes informatiques. Parce que si nous avons besoin de vous contacter ou de vous faire part de campagnes, notamment de lancement de contrats doctoraux, c'est sur ces listes de diffusion avec vos adresses athess que vous serez informés. Bien entendu, je ne vais pas le redire comme Marie l'a dit, mais vous devez consulter régulièrement le site de l'école et puis vous trouvez un relais auprès de nous et vous pouvez contacter le secrétariat de l'école doctorale que vous connaissez déjà parce que beaucoup ont déjà eu affaire à Natacha Georges qui le gère. Le dernier chapitre concerne la professionnalisation, qui est la mise en œuvre de dispositifs visant à assurer la formation professionnelle et l'insertion professionnelle des docteurs. Et nous avons quelques dispositifs à l'EHESS qui sont l'activité complémentaire d'enseignement, c'est l'ancien monitorat, ou des missions de conseil et d'expertise. Nous avons actuellement 17 postes de doctorants contractuels chargés d'enseignement à l'école. Nous recrutons également des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, ce qu'on appelle les ATER, qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée, qui permet à des doctorants en fin de thèse ou dans l'année qui suit la soutenance d'enseigner dans l'établissement durant une année. Il y a 10 postes d'ATER à mi-temps à l'EHESS. Et ce dispositif vise à permettre une transition vers des emplois d'enseignants-chercheurs. Et puis, nous mettons en place le dispositif de valorisation des compétences qui s'appelle nouveau chapitre de la thèse. C'est un accompagnement professionnalisant et non académique qui permet aux doctorants de préparer leur insertion professionnelle en faisant leur point sur leurs compétences et leurs projets professionnels. Les candidatures sont gérées par l'association Bernard Grégory, Intelli Agence, et le financement est assuré entièrement maintenant par l'école doctorale. Et puis, nous avons une politique de financement pour la participation à des colloques internationaux, à l'organisation de journées d'études, à des initiatives diverses et à des aides à la traduction. Et vous aurez tous les renseignements que vous voudrez auprès des secrétariats de vos formations doctorales. Et je conclurai par le master, puisque le master figure dans l'intitulé du service, mais il s'agit de la coordination des masters, c'est-à-dire de la mise en pratique et du suivi de la réglementation et de la coordination administrative des formations de master. Donc, je conclurai en vous invitant à consulter les sites, à nous contacter et je préciserai que votre premier interlocuteur lorsque vous vous inscrivez à l'école reste le secrétariat pédagogique de la formation disciplinaire dans laquelle vous vous inscrivez. C'est tout, merci.
Merci beaucoup. Corinne Raclin, responsable de la scolarité à l'EHESS.
C'est à vous. Donc, je vais vous donner des informations pratiques sur le service de la scolarité qui se trouve, comme tous les services de la DEV, avenue de France. C'est un service qui comprend deux bureaux, le bureau 723 pour les masters et doctorats et le bureau du diplôme de l'EHESS et des cursus libres, dont vous trouvez une description détaillée dans le livret de l'étudiant qui vous a été distribué ce matin dans les sacs. Donc, le service de la scolarité gère notamment l'inscription administrative. C'est à l'EHESS l'étape qui conclut votre inscription dans l'établissement. La date limite cette année est le 12 décembre 2014, mais si vous avez déjà reçu vos formulaires d'inscription administrative, n'attendez pas. Venez le faire dès à présent. Vous trouverez les horaires d'ouverture et de nombreuses autres informations pratiques sur les inscriptions sur les pages enseignement sur le site de l'EHESS. L'inscription administrative va vous permettre d'obtenir une carte d'étudiant, une sécurité sociale pour les moins de 28 ans, une adresse @hess.fr et également vous permettre d'aller sur l'ENT, l'espace numérique de travail, dont on doit vous parler un peu plus tard. Le service de la scolarité, outre les inscriptions, gère aussi d'autres procédures, dont les conventions de stage. Alors là, je vous demande votre attention pour éviter tout désagrément plus tard. Les conventions de stage ne peuvent être formalisées que si vous avez finalisé votre inscription et elles doivent être signées par toutes les parties concernées avant le début du stage. Donc si vous savez que vous allez devoir faire un stage, n'attendez pas parce que ça pose des problèmes chaque année. Soyez vigilants sur les dates. Vous pouvez passer au service de la scolarité bureau 723 pour plus d'informations sur les stages et pour retirer les formulaires qui sont en libre accès. Merci Marie. Vous trouverez aussi des documents concernant les conventions de co-tutelle internationale de thèse. Alors ça concerne les doctorants. C'est une procédure qui permet d'instaurer et de développer une coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères et qui favorise la mobilité des doctorants et des enseignants-chercheurs. La mise en place d'une co-tutelle doit impérativement s'effectuer la première année de doctorat, donc n'hésitez pas à vous renseigner au préalable. L'étudiant s'inscrit dans deux établissements, à l'EHESS et dans un établissement étranger. Ces travaux s'effectuent sous la responsabilité de deux directeurs de thèse, un à l'EHESS et un dans l'autre établissement. C'est une thèse unique qui est préparée, mais deux diplômes seront délivrés, le diplôme de chaque établissement faisant mention de la co-tutelle. Au printemps, il existe une campagne de bourse réservée aux co-tutelles et destinée à la mobilité des étudiants, principalement entre les deux pays, entre les deux établissements. Il y a les co-tutelles, et il y a aussi les co-directions de thèse qui sont aussi gérées par le service de la scolarité et dont vous trouverez aussi les formulaires dans notre service, bureau 723. Les co-directions, c'est une procédure qui permet de mener sa recherche sous la direction de deux directeurs de thèse, peu importe que ce soit dans un établissement en France ou à l'étranger. Mais dans ce cas-là, il y a une thèse unique et une seule inscription, un seul diplôme. C'est juste que la recherche est encadrée par deux directeurs de thèse. Voilà l'essentiel des informations qui concernent directement le service de la scolarité et qui seront reprises en partie cet après-midi au cours de l'atelier doctorant. Mais soyez bien vigilants sur les dates pour les conventions de stage parce qu'il y a vraiment des soucis chaque année. Et n'attendez pas la dernière semaine de décembre pour venir vous inscrire. Dès que vous avez votre formulaire, vous pouvez passer pour finaliser l'inscription. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, patientez, ça va arriver si votre adresse est bien la bonne. N'oubliez pas de nous notifier les changements d'adresse parce qu'on a beaucoup, beaucoup de retours. Je vous remercie.
Merci, Corinne. Alors, avant de dire quelques mots moi-même, pour représenter Marie Védy qui s'occupe du CIMI, le service d'information sur les mobilités internationales étudiantes. Je voudrais à nouveau enfoncer un peu le clou et redire à quel point il est important que vous activiez vos adresses email @EHESS au moment où arrive Lucas Morlot qui va parler ensuite de l'informatique à l'école. Pourquoi? C'est d'abord pour vous, nous, c'est pas, ça ne nous fait pas plus de pub ou je ne sais pas quoi, mais c'est si vous ratez des informations cruciales, ou comme un étudiant que je connais bien, un contrat de thèse, parce que vous donnez une adresse farfelue, que vous en changez et que vous ne consultez pas votre adresse EHESS, c'est vous qui en serez pénalisé et c'est uniquement vous qui serez les fautifs, puisque le meilleur moyen de pouvoir vous contacter, comme toutes les adresses EHESS sont le nom, point, enfin le prénom et le nom avec un point au milieu, n'importe qui doit pouvoir vous contacter, hein, peut vous contacter à tout moment tant que vous êtes inscrit à l'EHESS. Donc c'est un réflexe à avoir, mais là encore, on ne peut pas vous y contraindre manu militari, mais sachez que la plupart du temps, c'est vous qui aurez à vous en mordre les doigts, et pas nous si vous ratez des opportunités, des informations à cause de ça. Donc, en quelques mots, puisque ce n'est pas moi qui suis du tout le responsable de ce service qui s'appelle le CIMI, mais juste pour vous encourager, alors ceux qui pourront venir à l'atelier cet après-midi, qui s'appelle justement l'atelier mobilité, le CIMI recense un grand nombre d'institutions, de possibilités de bourses, d'échanges, hein, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, la Maison française d'Oxford, le centre Marc Bloch, y a la Casa Velasquez, les bourses de l'école française de Rome, sans parler des ressources propres à l'école qui existent, notamment par exemple les aides aires culturelles, ainsi que les aides propres, enfin ça ce sont des à l'échelle de l'école entière, celles qui sont propres à chaque mention, hein, presque chacune des mentions donne de soit des aides au terrain pour les anthropologues ou les sociologues, soit des aides pour aller consulter des archives. Toutes ces aides ont un double avantage. Hein, c'est certains d'entre vous avoir un réel besoin de ces fonds sur le plan financier. Mais en outre, elles montrent votre insertion à l'école, votre insertion dans le dispositif institutionnel de l'école. Elles vous font connaître des enseignants. Hein, et le jour où on postule à un contrat doctoral ou plus tard à une bourse, un postdoc ou même à un poste universitaire, ben, les étudiants qui, au cours de leur parcours, auront été soutenus, même des fois de manière modique, hein, par des petites aides au terrain, etc., sont connus. Leurs dossiers ont été vus, étudiés, évalués par plusieurs enseignants. Et c'est comme ça aussi qu'on devient un chercheur, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement par sa pensée, mais c'est aussi en la faisant connaître. Donc je vous invite chaudement à vous renseigner. Bien que ce service se soit révélé très efficace par le passé pour faire connaître ces bourses, le meilleur service que vous ayez à vous rendre à vous-même, c'est de vous renseigner par vous-même, d'aller chercher, de ne pas supposer que vous n'avez pas droit. Hein. J'ai une étudiante qui vient d'obtenir un contrat doctoral par un projet européen auquel elle pensait ne pas avoir droit, et j'ai dû insister lourdement pour qu'elle postule à ce projet. Elle a eu un contrat doctoral de 3 ans pour faire sa thèse. Donc ne vous sanctionnez pas vous-même, allez au-devant des informations. Soyez curieux, soyez, comme on dirait dans d'autres sortes d'écoles, proactifs ou entreprenants. Donc n'hésitez pas aussi à contacter Marie Védi, hein, V-E-D-I-E, qui s'occupe de ce service qui s'appelle le CIMI. Hein, vous verrez peut-être, l'adresse c'est cimi@ehess.fr, mais vous verrez encore peut-être le nom de la personne qui s'en est longtemps occupée, qui est Véronique Cognot, qui a vraiment posé les bases de ce service. Et donc cet après-midi dans les ateliers, un des ateliers, ce sera l'atelier mobilité qu'on animera avec Marie Védi. Évidemment, les autres ateliers sont intéressants aussi. Je ne veux pas privilégier celui que je vais animer. Mais vous pouvez, si vous êtes déjà fait des copains, des copines, vous séparer pour justement assister à différents ateliers et échanger des informations. Voilà, les questions pour cet après-midi. Nous, je crois qu'on a fini avec les services pratiques de la DEV, hein, et de la scolarité. Et nous allons désormais écouter des gens qui nous font l'amabilité chaque année de venir, qui ne sont pas de l'EHESS, mais dont le service concerne tous les étudiants de Paris, de la région, qu'ils soient français ou non. Je précise, puisque voilà, pour les étudiants, c'est la médecine préventive. Hein, le docteur, venez. Ce service qui s'appelle le SUMS, hein, que vous allez nous présenter, et auquel je vous demande de vraiment prêter attention, parce que si aujourd'hui vous avez tous l'air en bonne santé, ça a l'air d'aller, mais si demain il y a un coup de moins bien, comme on dit des fois, que ce soit sur le plan physique, moral ou autre, vous saurez où vous adresser.
Bonjour à tous. Je suis le docteur Badi Pérez et je suis accompagnée de Madame Savoie, qui est infirmière. Je suis médecin généraliste et coordinatrice adjointe du service de médecine préventive qui se trouve au niveau de la faculté de Paris Descartes, donc au 45 rue des Saints-Pères. Et en fait, ce service, a priori, vous serez amené à nous rencontrer dans le cadre d'une visite de médecine préventive, où on fera un petit peu le tour sur votre état de santé de manière globale, en reprenant en considération vos habitudes de vie. Et puis en fonction de ça, on a pas mal de choses à vous proposer pour ce qui concerne toujours des activités de prévention, notamment un tabacologue, un nutritionniste, un psychologue, gynécologue. J'oublie personne. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà, tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de cet entretien préventif. Et donc, ce sont des entretiens qui sont gratuits, enfin qui sont compris dans la prestation. Voilà, il y a un test de dépistage auditif qui va bientôt être proposé. On a aussi un test de dépistage visuel. Oui, c'est ça, le dentiste. Je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. Il y a effectivement la dentiste qui est disponible aussi pour une consultation de dépistage qui est entièrement gratuite. Donc, elle fait pas de soins à proprement parler. Par contre, elle peut vous dire s'il y a des choses à faire. À ce moment-là, vous épargnez une consultation pour rien à l'extérieur. Voilà. Ensuite, l'information importante de l'année, c'est qu'à compter du 17 novembre, on ouvre un centre de soins. Donc, vous allez pouvoir rencontrer un médecin généraliste pour une consultation de médecine générale, tout ce qu'il y a de plus banal, et déclarer un médecin traitant, éventuellement. Donc, nous, d'expérience, on sait que les étudiants prennent pas beaucoup soin de leur santé, souvent pour des problèmes financiers. Donc là, vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, ce sera pas gratuit, ce sera avec carte vitale. Cependant, nous pratiquerons le tiers payant et toutes les consultations seront disponibles au tarif sécurité sociale sans dépassement. Alors, effectivement, on n'est pas bilingue, hein, mais on a la possibilité de vous recevoir en anglais pour certains médecins, pour les visites préventives. Et un truc important que j'ai oublié de préciser également, c'est que c'est avec notre service qu'on fait des propositions pour les aménagements et pour les tiers-temps. Donc, on travaille en collaboration avec la mission handicap de l'école et c'est un des médecins de notre service qu'il faudra rencontrer pour pouvoir faire ses propositions et rester bien sûr dans le cadre du secret médical, c'est-à-dire que tout ce qui va être dit pendant notre consultation reste chez nous, mais ensuite en fonction des propositions, on voit ce qui est possible de faire avec les moyens qui sont à notre disposition ici à l'école.
Si vous voulez juste quelques précisions et que vous restez là pour me corriger si ce n'est pas le cas. Alors, je vois dans la présentation du SUM, c'est page 65-66 du livret, donc vous avez l'adresse, le téléphone, l'email, etc., qu'il est possible d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste en anglais, chinois ou arabe. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Chinois, peut-être. C'est Chira. C'est-à-dire que le service donc, est mutualisé. On est interuniversitaire et donc les sites de notre service où les médecins consultent se trouvent aussi bien sur l'université Paris 1 au centre Tolbiac, sur l'université Paris 3 au centre Sancier, Paris 9 à Dauphine. Et effectivement, pour le chinois, l'accueil se fait sur le site de Paris 1 au centre Tolbiac, puisqu'on a un médecin qui parle le chinois.
Bon, voilà, sachez que ça peut peut-être aller dans les conversations courantes ou dans le cadre scientifique, mais pour des consultations de médecine, il peut être quand même très utile, notamment psychologique par exemple, de consulter dans sa langue natale. Et permettez-nous d'insister un petit peu là-dessus, c'est vrai que vous avez raison de dire que les étudiants sont souvent en mauvaise santé, on ne prend pas assez soin de notre santé quand on est étudiant, hein, c'est considéré comme secondaire. Il y a souvent un grand isolement, alors... Moins en master, parce qu'on le voit, les étudiants de master se fréquentent plus, il y a plus un côté promotion comme ça chaque année, qu'en thèse, où bien souvent, François Lessarac l'a expliqué, on est souvent très isolé, à la fois sur le plan social et autres. Donc, ces services existent pour ça, et on insiste un peu, parce qu'effectivement, quand ça va bien, ça paraît un petit peu pénible d'entendre insister là-dessus, mais c'est quand ça va mal, effectivement, qu'on n'est pas du tout dans l'état ou dans les... dans la possibilité d'aller chercher de l'aide. Et par rapport à ça, pour les étudiants, il y a, le président l'a dit, la moitié d'étudiants étrangers à l'école. Sachez qu'en étant inscrit à l'EHESS, en étant inscrit à l'université, vous devez obligatoirement donc cotiser adhérer à la sécurité sociale, donc avoir une carte vitale, hein, cette carte verte. Excusez-nous, les étudiants français qui ont ça depuis longtemps, mais ça concerne tous les étudiants étrangers, notamment ceux qui viennent d'arriver. Et que cette carte, donc pour la plupart de ces services, par exemple, vous permet de ne pas payer. C'est-à-dire que vous payez, en fait, mais c'est votre adhésion annuelle qui ensuite vous permet de prendre en charge toutes ces consultations, y compris si vous êtes, si on vous diagnostique quelque chose qui demande des soins, des médicaments, etc. Donc, là aussi, voilà, c'est à vous d'y aller. On ne viendra pas forcément vous chercher, ou alors il faut vraiment qu'on aille très mal pour qu'on vous dise allez. Mais voilà, c'est n'hésitez pas, il existe même des choses qui peuvent être faites du temps où vous êtes étudiant et qui sont plus compliquées après, comme des soins dentaires, des lunettes, des choses comme ça. Donc, on ne vous reparlera jamais de ça, le HESS, on vous parlera de toutes sortes d'autres choses intellectuelles, de colloques très intéressants. Mais c'est le moment dans l'année où on vous en parle, donc on insiste un tout petit peu, mais sachez que c'est là pour vous. Et ces dames sont venues spécialement de la rue des Saints-Pères pour nous en parler. Donc, passez le mot aussi si vous voyez parfois des gens qui auraient besoin d'aide. Et vous savez, enfin, beaucoup d'entre vous étudieront les inégalités, quelles qu'elles soient, et notamment les inégalités d'accès à la médecine et autres. Elles sont malheureusement aussi fortes chez les étudiants, et bien souvent par manque de connaissances et d'accès à la connaissance des services qui existent. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Excusez-moi, je vais apporter un petit complément d'information parce que j'ai bien entendu que nombre d'entre vous se trouvaient parfois isolés. Il faut savoir que en plus des consultations médicales, nous avons une proposition de consultation psychologique pour ceux qui se sentiraient isolés, mal dans leurs études. Ça peut arriver à n'importe quelle période du cursus. N'hésitez pas. Nous avons plusieurs psychologues qui sont à votre service également pour vous aider dans le cadre d'un mauvais passage. Et ils sont à votre disposition.
Voilà. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a cet entretien préventif dans lequel vous serez, auquel vous serez convié.
C'est des masters. La médecine préventive est à votre disposition la durée de votre cursus, mais vous ne recevrez pas de convocation. On ne convoque que les étudiants qui ont obligation de valider leur carte d'étudiant, c'est-à-dire toute la partie licence. Au-delà, c'est à votre disposition, mais on ne vous convoquera pas de façon systématique.
Voilà. Donc, porte grande ouverte en cas de difficulté, quelle qu'elle soit. J'ai apporté quelques flyers à ce moment-là que je laisserai en bas si ça vous intéresse, qui reprennent un petit peu, qui reprennent un petit peu tout ce qu'on a dit et puis les coordonnées précises. Voilà.
Dernière chose, les médecins, infirmières et autres là-bas pourront vous aiguiller sur des consultations plus spécifiques et notamment pour tout ce qui touche à des choses personnelles, dans le plus grand anonymat et sans qu'effectivement ni personne ici à l'école en soit informé, puisque c'est tout ça sous le sceau du secret. Et je dis ça en particulier là encore pour les gens qui viennent un petit peu partout et qui ne connaissent pas forcément la tradition ou comment ça se passe en France. Merci encore. Nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Morlot, qui est informaticien à l'EHESS, mais viens près de moi. Et donc, en remplacement de Monsieur Philippe Abadi, qui n'a pas pu se libérer pour présenter donc aujourd'hui la question de l'informatique, ce qui s'appelle l'environnement numérique de travail, l'ENT à l'école, et la messagerie. Lucas,
merci. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais être assez bref. Je vais vous présenter rapidement les outils numériques auxquels vous aurez accès ou vous avez déjà accès tout au long de votre cursus à l'école. Donc, il y a beaucoup de services de base. Hein, bien entendu, vous retrouverez le Wi-Fi dans l'ensemble des bâtiments de l'école. Je pense qu'on vous en a parlé un peu ce matin. Il y a plusieurs bâtiments. Donc il y a notamment le 96 où vous irez plus, le 105, mais aussi le France, et puis pour ceux qui travaillent dans les labos, pour les doctorants. Donc tous ces bâtiments-là sont accessibles en Wi-Fi. Vous avez au 105 une salle de libre-service. Donc je ne sais plus combien il y a de postes actuellement, mais bon, vous pouvez accéder à Internet, travailler, etc. Donc elle est juste en bas, dans le bâtiment A, je crois. Donc l'autre petit bâtiment, elle est au sous-sol. Donc n'hésitez pas, il y a un technicien qui est là pour vous aider également, Alain Flagel. N'hésitez pas à aller le voir. Il est très débordé, donc venez pas le voir pour rien. Bien entendu, vous avez une boîte mail EHESS, donc prénom.nom @ehess.fr. Peut-être que tu referas un petit laïus après. C'est une boîte qui est importante. Alors on sait que vous avez vos, enfin comme nous, vos boîtes mail perso. Là, c'est vraiment votre boîte mail institutionnelle. Donc, notamment pour les doctorants, ça fait plus sérieux quand vous avez démarché pour votre travail. Après, l'administration vous contactera plutôt par ce biais-là. Donc n'hésitez pas, et je parle notamment aux masters qui n'ont pas du tout l'habitude, qui en général ne vont pas voir leur boîte mail, allez-y, vous risquez de perdre des informations. On a également tout un ensemble de services authentifiés. Donc, dans ce qui va vous intéresser le plus, on a les ressources documentaires numériques. Donc là, c'est les abonnements. On a les abonnements aux revues, les abonnements à Gistore pour les masters, etc. Je vais vous parler un peu de l'ENT juste après. Vous aurez toute la liste. N'hésitez pas à parcourir. Je crois qu'il y a un atelier. Je crois qu'il y a un atelier sur les ressources documentaires cet après-midi. Ouais. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de ressources. Vous avez aussi accès aux centaines de titres de presse, etc. La plateforme d'enseignement en ligne. Donc, nous, on utilise Moodle. Vous l'avez peut-être déjà utilisé dans d'autres établissements. On a un certain nombre d'enseignants qui y déposent leurs ressources, les textes, les programmes, etc. On a également, pour ce qui est public, le site web. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a sur le site web. Vous avez déjà dû y aller un peu pour vous renseigner sur l'école. En haut à droite de mémoire, ou en haut à gauche, enfin bref, vous verrez, il y a un annuaire. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des personnes, à aller voir ça. Et il y a le fameux lien vers l'environnement numérique de travail. Donc pour les étudiants qui ont étudié en France précédemment, vous ne serez pas perdus. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres établissements d'enseignement supérieur. Est-ce que j'ai fait le tour là-dessus? Oui, alors maintenant, je vais vous montrer très rapidement comment y accéder. Ah, je ne sais pas où vous en êtes de vos inscriptions. On vous a donné pendant votre inscription, donc dans le dossier administratif ou pédagogique, je ne sais plus, je me trompe à chaque fois, administratif, on vous a donné une feuille, une charte à signer. Donc rien de voilà, donc a priori ça c'est des choses que vous avez déjà fait, mais surtout on va vous donner une fois votre inscription terminée, on va vous donner une feuille d'activation. C'est-à-dire que votre compte est créé, mais tant que vous l'activez pas, vous n'accédez pas aux choses. Donc sur cette feuille d'activation, bon c'est expliqué, hein, mais vous retrouverez notamment votre mot de passe. Donc évitez de le diffuser. Là les services que je vous ai montrés, il y a d'autres services, mais c'est avec cet unique identifiant et cet unique mot de passe que vous allez accéder à l'ensemble des services. Donc évitez de perdre votre mot de passe. Je vais vous dire après, bien évidemment, vous pouvez le retrouver plus tard. Mais bon, c'est des démarches un peu inutiles. Et surtout, évitez de le diffuser. Il y a des choses un peu personnelles. Donc, c'est à faire une seule fois. C'est-à-dire que durant tout votre cursus, vous n'aurez pas à le refaire. Pour celles et ceux qui resteront en doctorat, ce sera... Voilà. Une fois que c'est fait, donc ça peut durer un certain temps. Donc il n'y aura pas à le refaire. Donc ça, c'est pour nous contacter. Donc on a un service de maintenance, notamment, donc qui est plutôt à destination des personnels. Donc il me semble, je ne vois pas mes collègues là, mais il me semble que pour les étudiants et les étudiantes, on fait de la maintenance au niveau de la sécurité, donc plus antivirus, etc. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop à l'aise là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les services informatiques dans le bâtiment France, donc dans le 13e arrondissement. Après, pour le reste, par contre, malheureusement, on peut pas s'en occuper. Par contre, on a un certain nombre de... Vous pouvez nous contacter par email. Donc il y a les adresses là-haut, donc pour tout ce qui est le compte informatique. Donc ce que je vous ai expliqué en fait avant sur l'activation, la perte de mot de passe, etc., vous écrivez à compte.informatique@ehess.fr. Et puis pour tout ce qui est un peu attrait au numérique, aide.ent@ehess.fr. Et si vous avez oublié tout ça, vous écrivez à 2626 @ehs.fr. Donc en gros, si vous savez pas, où écrire et que vous voulez contacter les services informatiques, vous avez un problème, vous avez perdu votre mot de passe, etc., et que vous vous rappelez pas des adresses, l'adresse principale à se rappeler, c'est 2626@ehs.fr. Voilà. Je vais peut-être réengager Eric à refaire un petit laïus sur le mail. Je sais pas si.
Je viens de le faire. Alors, je peux vous dire chaque année la même anecdote pour ceux qui ont une adresse email sexyboy84@gmail. Quand on envoie des dossiers pour des bourses, ATER, etc., ça va pas vous griller, mais enfin, ça fait au moins rire quand même et ça fait pas très sérieux. Donc, essayez de réserver ces adresses-là à vos relations personnelles et donc d'utiliser l'adresse HESS. Vous rigolez, mais on envoie chaque année. Je l'ai dit encore il y a deux jours à quelqu'un qui m'a envoyé son CV pour postuler dans un poste universitaire. Visiblement, cette adresse, il l'avait depuis ses 18 ans. C'était, je ne sais plus trop l'intitulé, c'était assez drôle, je ne vais pas le dire maintenant. Et il ne s'était jamais dit que ça pouvait poser problème. Voilà, donc, c'est comme si vous mettiez sur votre CV votre surnom, je ne sais pas, moi, ça serait Rico. On met son nom, quoi. Voilà. Donc, ces adresses ont l'avantage de vous faire. De vous identifier, on peut vous trouver facilement, mais en plus. De vous associer à l'établissement dont vous dépendez. Et bon, en l'occurrence, on aime toujours croire que le prestige de l'HESS va vous aider à trouver des bourses. Ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ça permet effectivement de vous identifier. C'est plus si vrai. En économie, oui, bien sûr. Vous pouvez encore changer de majeur, vous inscrire en éco. Mais en tout cas, c'est encore une fois, on peut que vous y inviter puisque voilà, c'est votre choix. Sachez que c'est aussi beaucoup plus simple pour accéder donc notamment à l'ENT et tout un tas de services auxquels vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas cette adresse EHESS ou si vous vous en servez pas. Chaque année aussi dans les séminaires, bon, il faut reconnaître que on a des bons informaticiens, mais que la plupart des enseignants chercheurs sont bons dans leur domaine, mais souvent pas très bons, voire pire que ça en informatique. Par contre, on est tous à peu près, y compris les plus âgés d'entre nous qui ont découvert l'informatique sur le tard, on sait que si Jean-Pierre Dupuis vient à notre séminaire et que son adresse est totalement illisible ou que c'est justement un pseudo qu'on n'arrive pas à lire sur le cahier de présence, en écrivant son nom, son prénom et son nom @ehess, on va pouvoir l'atteindre. Encore faut-il qu'il utilise cette adresse ehess.fr. On arrête là. Si vous ne le faites pas et que hein, ça sera de votre faute.
Non, je voulais juste corriger quelque chose. Vous n'avez pas besoin de votre adresse email pour accéder à l'ENT. Vous avez besoin de votre login et de votre mot de passe. Après, vous retrouvez le webmail dans l'ENT. Et l'autre chose que j'ai oublié, oui, l'adresse mail, vous allez pouvoir la conserver durant tout votre cursus, voire plus pour les anciens étudiants, mais ça, c'est encore en travail. Mais donc, voilà. Vous êtes assuré d'avoir votre adresse au moins pendant l'ensemble de votre cursus à l'école. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc les services que je vous ai présentés tout à l'heure, la plupart étaient des services authentifiés. Et donc c'est ce fameux couple login mot de passe qui permet d'accéder également au Wi-Fi. Tous les services que je vous ai présentés là qui demandent une authentification, c'est les mêmes login mot de passe. C'est un peu l'intérêt de la chose. Voilà. Merci.
Merci. Alors maintenant, il nous reste peu de temps et beaucoup d'intervenants, notamment les différentes associations et syndicats d'étudiants de l'école, d'étudiants et d'anciens étudiants. Donc j'invite en premier l'association des étudiants de l'école à venir. Si vous êtes là.
Bonjour à toutes et tous. Aussi à ceux qui sont en salle 7 et 8 et qui n'ont pas le plaisir d'être là avec nous. Alors, l'association étudiante, c'est donc l'AE. Donc ça fait très hégémonique, mais en fait, il y a aussi un BDS et un syndicat. C'est une association qui a pour but de promouvoir le lien entre les étudiants, de générer la convivialité, des choses sympas. Et encore, c'est une association pour et par les étudiants. On est étudiants nous-mêmes. Et du coup, elle est ouverte aux masterants comme aux doctorants. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 1000 séminaires. Là, on doit être 200, 300. Donc, ça donne une vague idée de l'isolement qui peut être le nôtre ou de la difficulté d'être en contact avec les étudiants de sa promotion. Et du coup, dans ce contexte-là, l'association étudiante a vraiment un rôle, notamment au travers des espaces de socialisation qu'elle propose. Et ça permet donc de pallier donc à cet éclatement. Dans la mesure où on partage des intérêts communs, où on a des destinées communes, et c'est malgré la diversité des projets de recherche n'est pas nécessairement immédiatement évident. Alors c'est notamment dans cet esprit qu'on met à votre disposition un local, au 96 boulevard Raspail, c'est-à-dire juste en face du 105 où nous sommes actuellement. Ce local qui est ouvert presque en permanence, avec des horaires administratifs, jusqu'à 21h me semble-t-il, ce qui est peut-être un peu plus qu'administratif quand même, où vous avez l'occasion de récupérer de la presse. Donc au niveau de la presse, je ne sais pas pourquoi on a certains journaux qui ne sont pas nécessairement les plus lus, ce qui fait d'ailleurs le plaisir des habitants du quartier qui se faufilent en catimini, en crabe, pour nous les subtiliser, mais ça fait partie du folklore de l'école. Et vous avez la possibilité de faire chauffer du thé ou vos petits plats maison, d'avoir un lieu pour travailler qui soit à la fois formel et informel, et donc de rencontrer aussi vos camarades. Alors, un petit sanctuaire. Donc alors c'est aussi justement un rendez-vous particulièrement, donc l'apéro de l'HESS, qui a lieu donc tous les jeudis, à partir du jeudi 6 novembre. Donc notez bien cette date, c'est la plus importante. Donc on propose des rafraîchissements gratuitement, mais aussi des boissons alcoolisées pour ceux qui veulent, donc à un tarif unique de 1 euro. Donc compte tenu de nos... je suis pas sûr d'avoir le droit de dire ça ici, mais ouais, j'espère que le... Non, a priori, tout va bien. On verra après. Et donc de fait, compte tenu de la diversité de nos objets de recherche, ça donne lieu à des conversations souvent très intéressantes en fin de soirée, et dans l'optique de la pluridisciplinarité et dans l'esprit de l'école que notre président a évoqué tout à l'heure. Alors... Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en pratique une sociabilité, une vie sociale, ce qui pour des étudiants de sciences sociales finalement n'est pas si courant. Alors, mais c'est l'occasion aussi donc d'apporter certains projets. Donc on compte sur vous également pour ça. Tous les projets qui ont été mis en place les années précédentes ont été le fait d'étudiants. Ça peut être des expositions, ça peut être des visites que vous auriez envie de réaliser vous-même parce que vous avez une activité particulière. Dans ce cas-là, en tant qu'association étudiante, on vous financera par exemple votre place pour que vous puissiez justement en faire part. Ça peut être également l'organisation de débats, de journées un peu plus informelles autour de choses qui vous sont chères. Et c'est aussi donc la possibilité de mettre en place des partenariats. Donc les partenariats, ça peut être quelque chose de tout à fait... ça peut être une échelle importante, par exemple. Ok. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, où on a justement la possibilité d'avoir des places à 5 euros, ou alors avec l'auditorium de l'école Louvre, ce qui nous permet d'avoir des visites intéressantes. Mais aussi, plus concrètement, avec des établissements locaux où vous aurez réussi à négocier des réductions pour tous les étudiants de l'école, par exemple. On a aussi d'autres projets plus concrets. Non, je vais laisser Léa, qui est notre service civique, la cheville ouvrière de notre association, vous présenter un peu les tandems linguistiques et également...
Alors, je sais pas si j'ai le... Oui, c'est bon. Alors, on a en ce moment deux très grands projets, qui sont les tandems linguistiques et l'atelier théâtre. Donc, alors l'atelier théâtre, en ce moment, on est à la recherche d'un nouveau professeur qui est censé être recruté sur casting apparemment dans les jours qui viennent. Mais bon, si vous voulez faire partie de cet atelier et choisir avec eux le nouveau metteur en scène et professeur. On a aussi le projet des tandems linguistiques, c'est-à-dire que si vous avez envie d'apprendre une langue qu'un élève de l'école parle couramment, on peut vous inscrire sur une liste. On essaye de mettre en contact deux personnes, dont une qui parlerait français et qui voudrait apprendre l'anglais, et un anglophone qui aimerait apprendre le français. On n'a plus beaucoup de temps, donc j'ai parlé en nom de l'association sportive qui n'est pas présente, je m'excuse si je dis des bêtises, mais il y a aussi une association sportive qui n'est pas gérée par l'association étudiante, mais qui est une association en soi, qui propose trois sports par elle-même, qui sont la gym suédoise, le yoga et un sport de combat. Je je ne sais plus trop lequel, je ne sais pas si tu te souviens.
Et c'est le sport de combat.
Ouais. Et il y a aussi un partenariat avec l'ENS Cachan, et donc on peut assister à tous les cours de sport de l'ENS Cachan au même tarif que les normaliens. Donc là, il faut aller directement sur le site de l'ENS pour consulter la liste de leurs sports et de leurs tarifs.
Si vous voulez faire de l'équitation, par exemple.
Oui, ou de, même de l'escrime, ou
des sports normaliens,
du rugby.
Juste un mot, l'association sportive donc vous donne rendez-vous, vous l'avez vu sur le prospectus, le flyer qui était dans le sac, le 23 octobre à 18h30, donc à la salle des étudiants au 96 boulevard Raspail, pour notamment recruter des nouveaux membres, puisque par définition les associations sont animées par des étudiants, beaucoup d'étudiants en master qui ne restent pas longtemps, et donc il y a un renouvellement perpétuel, contrairement à d'autres, notamment les enseignants de l'école qui restent plus longtemps, mais... Là, les étudiants, c'est tout le temps des... Voilà, nouveaux. Et juste une chose, il faut, pour s'inscrire, un chèque à l'ordre de l'association sportive, pour l'activité que vous voulez, et un certificat médical récent, comme quoi vous êtes apte à faire du sport. Donc, ça renvoie à l'exposé précédent sur la médecine préventive, au moins une bonne raison d'y aller si vous avez besoin d'un certificat médical.
Alors, je vais rajouter deux petits points. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour participer à l'association étudiante, nous recrutons des membres. Et je vais aussi rappeler l'adresse... email, donc c'est ae.ehess@gmail.com. Et l'idéal pour vous tenir au courant, parce que nous on n'a pas accès en fait à la liste des mails des étudiants, c'est de vous abonner si vous avez Facebook à notre page Facebook.
Il y a plein de notes.
Qui est, oui voilà, AEHESS. Et aussi, bon, pour ceux qui n'auraient pas Facebook, on essaye quand même d'afficher la plupart des événements dans le local étudiant, donc qui est au 96, et c'est juste à droite quand vous rentrez, il y a des vitres. Voilà.
Et cette salle étudiante, donc en face, elle est pour vous. Effectivement, il y a des journaux qui sont distribués. Moi, j'invite à lire, quelles que soient vos opinions politiques, tous les journaux, notamment pour connaître les opinions politiques des autres. Et à l'époque, après mai 68, on disait, les gens lisaient le Figaro pour disait connaître l'ennemi. En tout cas, je ne sais pas si on peut le voir dans ces termes-là aujourd'hui. Mais en tout cas, ne soyez pas sectaires et lisez. Avant, comme ça, vous pourrez encore mieux critiquer.
Et puis il y a aussi des revues de sociologie plus générales à votre disposition. Bon, faut pas les emporter, celles-là, faut les laisser sur place. Mais il y a quelques documents à lire, et il y a un frigo et le micro-ondes, la cafetière, etc. Et ce qui est sympa, si vous avez l'occasion, c'est d'amener quelque chose, enfin du café ou du thé pour l'ensemble des étudiants, parce que nous on renouvelle pas, c'est pas l'association qui renouvelle le stock. Normalement, l'idée c'était que les étudiants amènent de temps en temps de quoi manger et boire au local.
Alors du coup, rejoindre l'asso, c'est aussi une expérience professionnalisante, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Et non, mais dans les faits, ça vous apporte un certain nombre de compétences qui sont pas si anodines que ça, donc ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, si vous voulez en discuter, nous proposer des projets, savoir un peu ce qu'on a fait les années passées et connaître nos actions dans le détail. Donc on sera en salle 5, au deuxième étage, du coup pour deux ateliers de 15h à 17h45. Donc voilà, bienvenue et au plaisir de vous voir bientôt. Et donc le 6... Voilà, vous êtes tous les bienvenus au 96. Voilà, merci encore.
Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que un certain monsieur Corentin Durand se trouve dans la salle ? Est-ce que nous avons fait une petite place à une nouvelle association, plutôt mouvement, ou je ne sais pas comment on l'appelle, qui s'appelle l'UCIPO, l'Ouvroir en sciences sociales potentielles ? Il y a un vaste programme, justement, pour faire connaître les recherches en sciences sociales hors les murs, hein, en dehors des chercheurs, parce que c'est un de nos principaux défauts, c'est qu'on fait des choses extraordinaires, mais on ne les transmet pas assez au reste du monde. Donc, voilà. Mais je crois qu'il n'a pas pu se libérer. Donc, voilà, ça s'appelle l'UCIPO. Hein, pour ceux qui sont férus de littérature contemporaine, c'est basé sur l'acronyme ULIPO, l'Ouvroir de littérature potentielle, mais ils ne sont pas là. Donc si vous entendez parler d'eux, si vous cherchez, cherchez l'UCIPO. Et donc, voilà, c'était une présentation liminale, du coup. On va écouter Monsieur André Grelon, Monsieur directeur d'études André Grelon, qui est président, lui aussi, de l'association des anciens de l'EHESS, qui s'est formée récemment. Et qui a pour but, il va nous le dire.
Paradoxalement, alors que l'école des hautes études en sciences sociales va fêter l'année prochaine son 40e anniversaire, et puis 2 ans après, en se souvenant qu'elle a été autrefois l'école pratique des hautes études, 6e section, son 70e anniversaire, eh bien, l'association des anciens élèves C'est une structure tout à fait récente. L'école des hautes études n'avait pas ce genre de pratique et finalement, on s'aperçoit, au vu des premières réalisations, qu'elle a un rôle à remplir. Alors, en effet, c'est une association qui, après un moment de mise en place un peu compliqué il y a 2 ans, s'est vraiment installée à partir de l'année dernière et a commencé à organiser sa vie et à se mettre au service des anciens. Les anciens élèves, étudiants, mais aussi amis de l'EHESS, tout ça, ça faisait un sigle un peu long. Finalement, nous avons décidé d'utiliser le terme EHESS alumni, selon une mode anglo-saxonne, mais qui tend à se répandre un peu partout. Donc EHESS alumni a commencé ses activités. Les étudiants ne sont pas destinés à le rester. Ils rentrent en principe dans le monde du travail. Le HESS a en principe pour vocation de former des chercheurs qui vont, le plus souvent possible, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais tout le monde n'a pas pour destinée d'entrer dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Or, si le HESS est bien armé pour former ses étudiants à se présenter au concours, à organiser la préparation de sa vie académique, eh bien, elle a été jusqu'à présent peu encline à s'intéresser aux autres étudiants, soit en gros 50% des étudiants qui quittent le HESS. Je pense qu'une partie d'entre vous n'ira pas dans la recherche publique, n'ira pas dans l'enseignement supérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est démuni pour autant. Il y a toute une série d'informations qu'il faut connaître pour pouvoir rentrer dans le monde du travail non académique. C'est ce à quoi notre association s'est vouée en partie, c'est-à-dire préparer les jeunes chercheurs, entre guillemets, à rentrer dans le monde du travail non académique. Nous avons organisé ainsi une série d'ateliers pour pouvoir être capable de vendre et de présenter ces capacités, ces compétences qui sont nombreuses, qui sont profondes, qui sont utiles à l'ensemble de la vie sociale et économique. Mais on n'est pas forcément bien armé pour ce genre de présentation. Et donc, nous avons organisé ces ateliers de façon à, par exemple, construire un curriculum vitae professionnel, savoir se présenter, savoir s'organiser dans un entretien d'embauche. Ça fait partie des choses que nous avons mises en place l'année dernière et ça a eu beaucoup de succès. Nous allons recommencer cette année et je dois vous dire que les 2 premières sessions que nous prévoyons pour ce trimestre-ci sont déjà à peu près pleines. Mais nous avons aussi organisé d'autres activités. Par exemple, à partir des travaux d'un ancien, nous avons organisé la projection d'un documentaire sur la catastrophe de Fukushima. Et puis, nous avons organisé des soirées rencontres pour faire plus ample connaissance. Nous avons organisé, par exemple, une soirée Galette des Rois au mois de février dernier. C'était tout à fait sympathique, ça a eu beaucoup de succès et nous allons recommencer l'année qui vient. Quand je dis anciens élèves, ça ne veut pas dire que les étudiants actuels en sont exclus. Nous les accueillons très volontiers. Et du reste, il y a toujours un membre de l'association des élèves et étudiants de l'EHESS qui participe à nos travaux. Il est invité à participer à nos activités, à notre conseil d'administration. Et nous sommes très heureux de pouvoir dialoguer avec lui. Et nous voulons absolument renforcer ce lien encore cette année. Voilà. Et nous avons aussi eu le plaisir qu'un de nos anciens, Mauricio Onetto, a ouvert une antenne chilienne de notre association. Et nous espérons que cette année, il y aura d'autres antennes qui vont se créer. Voilà. Cette association n'a donc pas vocation à n'être que parisienne. Et elle tient à se décentraliser, c'est-à-dire à développer ses activités aussi dans les centres de l'école qui sont à Lyon, à Toulouse et à Marseille, mais aussi à s'internationaliser. Voilà. Ah, si vous voulez prendre contact avec nous, deux adresses EHESS possibles, andré.grelon, c'est mon nom, @ehess.fr, et puis l'adresse de notre délégué général, laurent.dape, @ehess.fr. Vous aurez toujours le meilleur accueil.
Merci. Et j'appelle Sylvain Di Mano, est-il là, syndicat solidaire étudiant EHESS, qui va nous parler des conditions de travail des étudiants aujourd'hui à l'école et de ce que propose leur activité syndicale. C'est encore une chose que les étudiants ont peu le temps de faire à l'école, c'est de se préoccuper de leurs propres conditions d'étudiants. Alors écoutez bien.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'EHESS. Donc, je vais plutôt vous présenter assez globalement le syndicat solidaire étudiant EHESS, qui est le seul syndicat présent sur l'école et qui vise à regrouper à la fois les doctorants, les masterants, etc., qui se préoccupe d'une part à aider les étudiants face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs études, mais plus globalement aussi, par exemple, pour les étudiants étrangers face à la préfecture pour essayer d'avoir des papiers, etc. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est un syndicat étudiant qui vise à essayer de résoudre les problèmes, à mettre en relation les étudiants avec des instances peut-être plus compétentes que nous, comme pour les étudiants étrangers, le RUSF ou autres. Donc première partie, ce syndicat qui vise à ça, mais qui vise aussi plus globalement à prendre en compte l'université dans son ensemble et à tenter de remettre en cause, de lutter contre un certain nombre de réformes qui se mettent en œuvre depuis plusieurs années, même plutôt des contre-réformes qui visent à véritablement privatiser l'université, à les mettre en concurrence les unes avec les autres. Et ce mouvement-là, donc, qui, à notre avis, doit être récusé assez radicalement. Et donc ce premier temps doit aussi s'accompagner d'un deuxième temps qui nous semble nécessaire, essayer de prouver qu'un autre modèle universitaire est possible, qu'une université publique, gratuite et critique est possible et nécessaire. Et c'est même les bases sur lesquelles se sont créées l'école des hautes études en sciences sociales initialement. Donc je vous invite à nous contacter pour parler, si vous le souhaitez, des réformes actuelles, plus précisément. Notre adresse mail est disponible sur Internet, ou même on a aussi un local syndical en face, au 96 boulevard Raspail. À nous contacter aussi en cas de problème, quel qu'il soit, pour qu'on essaiera de résoudre avec vous. Et enfin, si vous considérez que une autre vision de l'université doit comme ça émerger et doit essayer de s'imposer, on vous invite à vous mettre en rapport avec nous, voire à nous rejoindre. Pour parler plus globalement des conditions d'études, je vais passer la parole à Sylvain qui va vous présenter une initiative récente que soutient le syndicat solidaire étudiant.
Donc voilà, j'ai parlé au nom d'un collectif de doctorants qui s'est monté au début de l'année pour discuter un petit peu de nos conditions d'études et de travail à l'EHESS. Certains d'entre nous sont syndiqués à Solidaire, d'autres non. Et en fait, on avait envie de se rencontrer pour échanger un petit peu sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos études. Entre autres, le fait que beaucoup d'entre nous sont obligés de travailler pour payer leurs études. Les difficultés pour trouver des financements, des bourses pour faire nos terrains. Les difficultés après pour trouver un poste. La précarité qu'on peut rencontrer quand on a enfin trouvé un poste. les difficultés pour les doctorants, pour les étudiants étrangers d'obtenir un titre de séjour ou renouvellement de leur titre de séjour. Bon voilà, discuter de ces choses-là, on a envie de se rencontrer, donc on a fait déjà plusieurs réunions. Et en même temps, on est tout à fait conscient que, ça s'insère dans des conditions d'enseignement supérieur et de la recherche qui sont en train de se dégrader, en particulier avec une généralisation de la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui touche aussi bien les étudiants, les doctorants, les post-docs que les personnels. Et voilà, on pense qu'il est vraiment nécessaire de créer des espaces pour échanger là-dessus et réussir à s'organiser pour améliorer nos conditions d'études et de travail, tous et à chacun. Et donc, on vous invite, masterants, doctorants, mais aussi les post-doctorants et aussi les personnels de l'EHESS, à venir à une assemblée générale qu'on organise le 22 octobre à 19h. Ce sera dans ce bâtiment, dans la salle 2, donc au 105 boulevard Raspail. Et voilà. Vous êtes les bienvenus et on espère vous voir nombreux et nombreux. Ah oui, et c'est à 18h30, pardon, et pas 19h. Merci.
Merci.
Merci à vous. Juste un mot là-dessus. On le dit, ça fait souvent sourire, notamment les étudiants qui ont déjà, les étudiants français, hein, qui ont pas d'autre expérience. Mais le droit de se syndiquer quand on est étudiant ou travailleur en France est... c'est un droit, hein, c'est libre et personne ne va vous critiquer ou vous causer des problèmes à cause de ça. Je le dis notamment à toute l'adresse des étudiants étrangers qui viennent parfois de pays où le fait d'être syndiqué, d'être dans un syndicat étudiant peut être une cause de radiation de l'université ou peut leur attirer des problèmes. Et c'est un devoir aussi quand vous vous sentez concerné, en tout cas si c'est une des façons de lutter vous-même pour vos conditions de travail et d'études. Voilà, en tout cas, sans faire du tout de prosélytisme et vous pousser et vous syndiquer, en tout cas sachez que personne ne vous en tiendra à rigueur, surtout pas ici à l'école des hautes études, et que si c'était le cas, c'est pas du tout légal, donc faites-le savoir.